Bonsoir à tous. Donc d'abord, merci à la librairie Mola de nous accueillir pour ce troisième café littéraire de l'Académie des dirigeants. L'Académie des dirigeants, vous avez peut-être vu un petit article dans Le Point récemment qui disait que nous étions essentiellement un réseau à la fois de réflexion qui réunit des dirigeants d'entreprises publiques et privées. Et nous avons choisi donc l'année dernière pour justement alimenter ces réflexions de créer au sein du café de l'Académie le café littéraire, donc en partenariat avec Mola. Et donc c'est le, comme je le rappelais, c'est le troisième café littéraire. Nous avons d'abord accueilli un auteur pour son ouvrage sur comprendre et manager la génération Y. Ensuite, c'était Lost in Management, les entreprises à l'heure du 21e siècle. Et aujourd'hui, pour rompre un petit peu ce climat de morosité ambiante dans lequel on baigne tous, c'est la crise, les gouvernements sautent les uns après les autres, la mondialisation nous achève. Eh bien, nous avons choisi, pour sortir de ce climat de morosité, donc de faire appel aux auteurs de cet ouvrage « Les 30 Glorieuses sont devant nous ». Et ce soir, nous avons donc avec nous Valérie Rabault, donc, qui va nous exposer un petit peu, nous donner les clés de cette démarche pour enfin sortir de la morosité. Alors, bon, on entend, je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses sur cette crise ambiante. Alors, est-ce que, en dépit d'une conjoncture qui ne fait que s'aggraver, votre ouvrage qui est paru au mois de mars reste toujours d'actualité?
Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être à Bordeaux ce soir. C'est vrai que quand je descends de la gare Saint-Jean, où je dois venir, je viens plusieurs fois par an, mais je la vois à chaque fois évoluer, je vois à chaque fois évoluer le quartier. Et quand j'arrive à Bordeaux, j'ai l'impression, la sensation physique d'une ville qui vit et qui avance. Alors, vous me direz si c'est vrai ou pas. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre. Mais effectivement, comme vous le rappeliez en introduction, le livre est sorti en mars et on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, en novembre 2011, après des crises à rebondissement, des plans qui ont été une vingtaine, des plans européens pour lesquels on en a eu une vingtaine au cours des deux dernières années, on peut raisonnablement penser, ou en tout cas avoir une projection, que les 30 Glorieuses puissent être devant nous. Alors j'ai envie de commencer juste par une réflexion qui n'est pas de moi, qui est d'un certain membre de la délégation chinoise au G20, alors c'est des échos que j'ai eus, donc au G20 qui s'est tenu il y a quelques jours, et qui disait, mais dans le fond, vous êtes le continent le plus riche de la Terre, c'est vrai, en termes de PIB, on est au-dessus des États-Unis. Et c'est à nous, Chinois, que vous venez demander de l'argent. Et c'est vrai, quand on pose la question comme ça, on a envie de se dire, est-ce que dans le fond, on n'est pas en train de marcher sur la tête? Effectivement, d'avoir la plus forte concentration de richesses au monde en Europe et d'aller quémander à des pays qui ont un niveau de vie bien moindre que le nôtre. Et je crois que si on se pose la question dans ce référentiel-là, on peut peut-être se dire qu'avant d'attendre que les autres fassent pour nous, il faut qu'on repense nous-mêmes ce qu'on a envie de faire pour nous-mêmes, parce qu'au départ, on a des atouts. Alors, si je vais juste dire deux mots du livre qu'on a écrit avec Karine Berger, « Les 30 Glorieuses sont devant nous », on l'a écrit sur l'année 2010, entre janvier et août 2010, enfin, oui, sur cette période-là, et on l'a écrit, j'ai envie de dire, pour deux choses, essentiellement pour deux choses. Pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour deux choses. La première, c'est qu'on avait vécu toutes les deux chez nos employeurs respectifs, dans le secteur privé, la crise de 2008-2009. On a vu des gens se battre sur le terrain, et j'ai envie de saluer ici les PME, parce que c'est vrai que c'était difficile dans des situations de trésorerie qui pouvaient être tendues. On a vu des gens se démener, faire en sorte de surmonter cette crise, et la seule chose qu'on a vue qui en est ressorti dans les journaux, c'est « on est fichu, la France n'a pas d'avenir, ses usines délocalisent, la mondialisation va nous happer ». Alors, il y a une sorte de, je ne sais pas s'il faut appeler ça une schizophrénie, ou en tout cas une dichotomie entre des salariés, des employeurs qui se battent sur le terrain, et l'image qui peut ressortir dans la presse économique. Alors, je ne vais même pas en parler maintenant, parce que j'ai encore ouvert la Tribune et les Échos aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'était une image apocalyptique du monde économique. Ça, c'était le premier point, parce que c'était une expérience que nous, nous avions vécue, personnellement, l'une et l'autre. Et nous voulions un petit peu tenter de voir si on pouvait renverser la tendance, en, au moins en termes de remontée et de ressenti qui peut en être fait dans le débat public. Quand on a commencé, toujours sur ce point-là, on s'est un petit peu fait peur, parce que quand on regarde la littérature économique au cours des 15 dernières années, vous avez l'horreur économique de Viviane Forrester, La France qui tombe, sont autant de titres qui se sont très très bien vendus. Alors là, je parle sous le contrôle des responsables de la librairie Mola, mais je crois qu'ils ils ne me contrediront pas. Ce sont des titres qui se sont très très bien vendus. Et dans le fond, depuis 15 ans, si vous faites une recherche sous Google, vous verrez que les best-sellers en économie, c'est l'histoire d'une économie, une histoire négative de ce qu'on est capable de faire en économie. Alors, on a trouvé ça très très injuste, encore une fois, notamment au regard des gens qui se battent tous les jours sur le terrain. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, on s'est dit, bon, c'est très bien soit de critiquer ce qui peut exister, mais est-ce qu'on est capable de penser, d'avoir une pensée ou de construire quelque chose qui pourrait fonctionner ? Et là, on s'est mise dans le mode de ce qu'on peut faire dans une entreprise. On vous dit, faites-moi un business plan. Alors, un business plan, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout et rien dire. Mais c'est de se dire, dans 3 ans, où est-ce qu'on voit l'entreprise ? Dans 4 ans ? Pour y arriver, quels sont les moyens humains, les moyens financiers, bien entendu, les moyens de distribution des produits, et puis les moyens d'innovation, de technologie qu'on veut pouvoir mettre sur le marché. Et on s'est dit, alors évidemment, penser un business plan à l'échelle d'un pays, c'est peut-être un peu osé. Mais en tout cas, la démarche qui est de dire on se fixe un objectif, elle nous paraît essentielle si on veut pouvoir redécoller. Je vais encore prendre un exemple. Il y a un Américain qui m'avait dit, alors maintenant ça remonte il y a à peu près un an, m'avait dit, dans le fond, c'est quoi la politique économique de la France ? Alors, j'ai envie de vous retourner la question, c'est quoi la politique économique de la France ? C'est quoi l'objectif ? Est-ce que notre objectif, c'est de se dire, on veut faire 2,5-3% de croissance ? Est-ce qu'on veut faire de l'industrie ? Est-ce qu'on veut être leader sur un certain nombre de secteurs ? Je vous avoue, je ne sais pas répondre à cette question. Et je pense que quand on se dit qu'on veut faire un business plan, la première des questions qu'on veut se poser, c'est se fixer un objectif. Et cet objectif-là, dans notre histoire, l'histoire de notre pays, il y a une période où on se l'est posé. Alors une période qu'on n'a pas connue, ma co-auteure et moi, vous non plus d'ailleurs, qui était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous me direz, tout était détruit, il fallait reconstruire le pays. Tout ça, je l'entends parfaitement. Mais la démarche qui avait été adoptée n'émanait pas d'un corps constitué, je vais dire, de fonctionnaires, elle émanait de Jean Monnet. Jean Monnet, qui avait cette particularité, moi je trouve qu'il a un destin fabuleux, ce monsieur, qui avait la particularité incroyable d'être allé vendre du cognac en Angleterre, aux États-Unis et aussi en Russie, d'avoir y compris vendu de l'alcool pendant la prohibition aux États-Unis, et qui était revenu en France en se disant, bon, maintenant on a un pays détruit, qui avait été évidemment mandaté par le général de Gaulle, on a un pays détruit, comment... Quelle est la méthode qui peut permettre de reconstruire et d'avancer ? Et quand on lit, je ne veux pas faire de l'apologie de la planification, mais quand on lit le plan de 46, c'est un petit bijou. Je pense qu'aucun business plan aujourd'hui n'aurait à rougir, enfin, ce business plan de 46 n'aurait pas à rougir par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fixe un certain nombre d'objectifs et il dit, les moyens, il ne faut pas les saupoudrer, il faut les concentrer sur les objectifs qu'on a définis. Mais la première tâche, c'est de définir les objectifs. Et ça, ce n'est pas si simple. Ça, c'est le premier, la première clé des 30 Glorieuses, c'est cette capacité à définir un objectif et à y associer les moyens nécessaires. Mais ça ne suffit pas. Et ce qui nous a paru... incroyablement fort dans cette période des 30 Glorieuses, savoir si effectivement on peut le répliquer, on y reviendra un peu plus tard, c'est l'adhésion au progrès. Quand vous allez sur le site internet de l'INA, qui montre des journaux télévisés des années 50, 60, enfin, qui remontent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, enfin, en tout cas, quand on regarde ceux des années 50-60, vous pouvez aller descendre dans la rue, vous avez des micro-trottoirs, et les gens vous parlent du progrès de la France. Et je vous avoue que pour moi, bon, je ne regarde peut-être pas assez la télévision, mais j'ai l'impression que cette dynamique d'avoir des citoyens qui sont dans la rue, qui sont capables de dire « c'est génial, on a inventé la pénicilline, regardez, on a des avions, on est capable de se projeter », je pense qu'aujourd'hui, cette adhésion qui existait très fortement dans les années 60-70 est sans doute tombée. Alors pourquoi est-ce qu'elle est tombée ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui une adhésion collective au progrès ? Et c'est ce qui nous a paru être la clé et la force des vraies Trente Glorieuses, c'est que le pays était derrière cette idée du progrès. Alors pour être derrière cette idée du progrès, on s'est dit, bon, mais dans le fond, c'est quoi la recette miracle qui fait que tout un pays, alors en tout cas dans sa grande majorité, peut avancer derrière l'idée de progrès ? Et on a tenté de le décrire ou de le qualifier, parce qu'effectivement, le modèle français, on peut en parler beaucoup, en partant de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Alors vous me direz, bon, c'est quand même un petit peu poussé de vouloir appliquer la devise républicaine à l'économie. Ben, pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. Parce que la liberté, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que pour qu'une économie fonctionne, il faut qu'il y ait des gens, bon, qui aient une idée géniale, un cerveau, mais il faut qu'il y ait de la prise de risque. Avoir une idée tout seul, rester dans son garage, inventer la meilleure molécule du monde, ça ne fera pas ni progresser le pays, ni progresser la personne qui aura cette idée géniale. C'est la capacité à investir dans l'avenir, à mettre de l'argent sur le futur, mais pas uniquement du risque financier. C'est la capacité de se dire, ce qu'on fait aujourd'hui avec telle technologie, on se dit, bon, allez, on tente demain de la faire avec une autre technologie. Donc le chemin pour y arriver, c'est quand même une prise de risque importante. Et cette liberté, la France a sans doute eu une méthode originale de la mettre en œuvre, puisqu'elle a associé la prise de risque court terme et la prise de risque long terme. Alors si je schématise, c'est une prise de risque court terme avec des investisseurs privés qui se sont un petit peu greffés sur une colonne vertébrale d'un secteur public, en tout cas d'argent public investi, qui a été très important, à la fois avec le TGV, avec Airbus, avec le nucléaire. On ne va pas rentrer dans le débat, mais enfin c'est quand même une technologie où la France a été une des premières à lancer un certain nombre de centrales. Donc cette dichotomie ou cette association entre le pays, entre le public et le privé, pour être en mesure de prendre tous les risques possibles dans le temps. D'un risque sur 2 ans qu'un investisseur privé peut très bien prendre, à un risque sur 50 ans qui sera le TGV Méditerranée ou un autre TGV, une autre ligne de TGV. Et j'ai envie de dire que la France a sans doute été la première dans l'histoire économique des différents pays à inventer cette sorte de partenariat. Picasso, les peintres Picasso et Braque appelaient ça une cordée. Quand l'un faisait une découverte, ça permettait à l'autre d'avancer. Et bien là, on trouve que c'est pareil. Cette prise de risque, la manière dont elle a été menée en France, a permis d'avancer sous la forme d'une cordée. Le deuxième pilier qui nous paraît tout aussi important, c'est l'égalité. C'est-à-dire que dans le livre, on cite une statistique qui nous a un peu choqués, j'avoue. Il y a un sondage, l'Eurobaromètre interroge 27 000 Européens par an, donc 1 000 dans chaque pays, ou peut-être proportionnellement à la population, je ne sais plus trop. Et la question posée était, est-ce que vous pensez que l'inégalité est nécessaire pour qu'un pays puisse créer de la croissance ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut qu'il y en ait qui se sacrifient pour que le pays puisse avancer et être créateur de richesses ? Les Allemands répondent oui à 20%. Donc 20% des Allemands considèrent qu'il faut qu'il y ait de l'inégalité pour qu'on puisse créer de la richesse. Les Français, c'est à 42 ou 43%, c'est-à-dire le double. Donc on est dans une situation où on accepte en nous l'idée qu'il faudrait qu'il y ait de l'inégalité pour qu'on puisse avancer. La période des Trente Glorieuses, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est l'idée que chacun, pour qu'il y ait une partie prenante à ce progrès, que chacun est partie prenante de cette création. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu, donc je ne sais pas comment on pouvait le vivre. Mais ce que je constate, c'est que cette adhésion-là, et je vous invite à aller regarder ces journaux télévisés que je trouve fabuleux. Cette adhésion-là a été très très forte et nous on défend l'idée qu'elle a été à l'origine, enfin qu'elle conduit aussi à faire en sorte qu'il y ait de la prise de risque et de la création de richesse. Alors après on peut voir comment elle s'est déclinée, c'est à la fois via un ascenseur social très fort à la méritocratie, mais aussi une redistribution des richesses via de la protection sociale qui, grosso modo, ne laissait personne sur le chemin. Je n'ai pas inventé Airbus, je n'ai pas inventé Ariane, je n'ai pas inventé les centrales nucléaires. Et pour autant, dans ma vie personnelle, j'en ai eu des retombées, puisqu'effectivement, la France s'est enrichie. Et c'est une des clés qui a permis à tout le pays d'avancer. Le troisième pilier qui nous paraît, donc la fraternité, extrêmement important, c'est que la France ne vit pas en espace fermé. Et elle a besoin d'organiser sa relation aux autres, à la fois au sein de l'Europe et aussi par rapport à la mondialisation. Et ce volet-là a été une des clés aussi, avec la construction européenne qui s'est mise en place à ce moment-là, avec aussi une politique d'immigration. L'INSEE dit que la France est une terre d'immigration qui a contribué à ce dynamisme économique. Alors si j'ai envie de résumer, c'est sans doute peut-être un petit peu raccourci, mais quand même, c'est en tout cas le fondement qu'on a trouvé à ces 30 Glorieuses, c'est que ces trois piliers, liberté, égalité, fraternité, quand ils avancent ensemble, sont générateurs de création de richesses et de progrès. C'est ce qu'on peut appeler le fameux modèle français. La petite difficulté, c'est qu'il faut les faire avancer tous les trois ensemble. C'est plus compliqué qu'un modèle qu'on pourrait qualifier d'anglo-saxon de consommation ou qui valorise une certaine image individuelle avec Bill Gates qui inventera Microsoft. Là, il y a un pilier. Quand il y en a trois, c'est effectivement compliqué de les faire avancer tous les trois ensemble. Quand il y en a un qui tombe, c'est un peu le modèle qui vacille. Et le petit problème qu'on a daté du milieu des années 90, c'est que les trois piliers sont tombés à la fois. Donc il faut reconstruire ou être en mesure de reconstruire les trois piliers à la fois. Alors on peut y arriver. On peut y arriver parce qu'on ne part pas de rien. On a des atouts que d'autres n'ont pas. La petite question, c'est de savoir comment on met tous ces atouts en branle et comment on peut avancer de manière positive comme le rappellent les Chinois, vous êtes quand même le continent le plus riche et vous venez nous demander de l'argent, ce qui est juste quand on y réfléchit à tête reposée, ce qui est quand même juste assez impensable. Parmi les atouts qu'on a, et je passerai assez vite là-dessus, il y a déjà notre population. La population, quand on regarde une équation pour la croissance, la population avec la productivité sont effectivement les deux vecteurs de création de croissance. On a une population qui certes vieillit, comme le reste de l'Europe, mais qui reste plus jeune, notamment si je nous compare à nos voisins allemands ou plus tard à nos voisins italiens. Alors évidemment, si on ne fait rien, on se retrouvera dans une situation où à horizon 2025-2030, d'après les projections de l'INSEE, on aura un tiers de la population, enfin un petit tiers on va dire, qui aura plus de 65 ans. Ce qui pose deux questions, c'est-à-dire à la fois la question des dépenses sociales qui vont augmenter et la question d'avoir moins de personnes en âge ou en mesure de créer de la richesse et de la croissance. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel il y a un levier dont il faudra discuter. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation moins mauvaise que d'autres. Le deuxième sujet, on a une tradition technicienne d'ingénieur assez forte en France. On est la deuxième puissance, on est classé dans le classement des médailles Fields, on est quand même la deuxième nation derrière les États-Unis. C'est un patrimoine scientifique, technique qui est extrêmement important que beaucoup de pays nous envient, puisqu'effectivement, ces personnes-là sont plutôt tentées d'aller aux États-Unis que de rester en France. Donc, ce qui pose un sujet sur lequel on pourra revenir. Et troisième atout dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le modèle français. On croit, c'est la thèse qu'on défend dans le livre, que le modèle français, cet enchaînement des trois piliers, alors il faut les faire marcher ensemble. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais en tout cas, si on reprend l'expression de Jean Fourastier, qui lui a écrit les vraies 30 Glorieuses, j'ai envie de dire, il dit le progrès, c'est pas quelque chose qui se décrète, mais c'est quelque chose qui se construit. Et il a même une expression sur laquelle on était revenu d'ailleurs avec l'auteur de Lost in Management. Il parle de procédure du progrès. Alors procédure, ça fait un peu procédural, administratif, etc. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de construit. Que pour arriver à créer du progrès, il y a un cheminement construit qu'il faut pouvoir atteindre. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé, on a des atouts, on y arrive à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui où on est au bord, en tout cas l'Europe connaît un certain nombre de difficultés. L'idée du business plan qu'on a en tête, on est parti d'un certain nombre d'objectifs, à la fois d'objectifs de croissance par tête, d'utilisation des ressources, et on en a décliné 5 priorités, cinq priorités, dont 3 secteurs. Face à ces 5 priorités, on a mis, en termes de moyens, on propose de mettre 90 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, mais vous êtes fous, 90 milliards d'euros en ce moment, quand on voit que on peine à lever de l'argent sur les marchés financiers, c'est totalement irréalisable. Non, je maintiens que c'est réalisable et c'est possible. 90 milliards d'euros sur 3 ans. Donc on a choisi 3 secteurs qui sont les transports, l'énergie et la santé. Et la santé, on ne le voit pas comme un secteur. On a parfois la tentation de penser la santé comme un secteur de dépenses et pas forcément comme un secteur offensif qui nous permettrait de conquérir des marchés. Donc 3 secteurs et 5 priorités au sein desquelles 3 secteurs industriels d'investissement. Je vais prendre un exemple sur la santé. Le premier chapitre du livre, c'est une fiction. C'est on part de maintenant, on arrive à la France de 2040, ce qu'on appelait CZG. Alors en astronomie, c'est l'alignement parfait d'un certain nombre, l'alignement parfait des planètes. Et donc là, c'est l'alignement parfait du modèle qui permet d'aboutir à une France qui est heureuse économiquement. Et parmi les inventions qu'on fait, il y a la découverte du vaccin contre la maladie d'Alzheimer. Bon, il est clair que le pays qui découvrira ce vaccin emportera des parts de marché mondiales de manière... C'est un succès évident, un succès économique, j'entends, un succès économique quasi assuré. On prend un autre exemple, on invente dans notre chapitre 1, qui est totalement... C'est une fiction, qui est une vraie fiction. On invente le moteur hybride qui consommerait 1,5 litre, 2 litres au 100. Là, pareil, le pays ou le constructeur qui découvrira ça pourra conquérir un certain nombre de parts de marché, à la fois parce qu'on consommera moins, on rejettera moins de CO2. Donc c'est via la technologie, via la capacité à utiliser les ressources qu'on pourra créer ce levier sur la croissance. Donc nous, on propose d'investir via ce business plan sur 3 secteurs qui sont... les transports, la santé, parce que c'est vraiment un secteur offensif, et l'énergie, en ayant, ça c'est de l'argent public qui prend le risque long terme, mais qui permet à un certain nombre d'acteurs privés de s'agréger autour de ce scénario. On met aussi, parmi les 5 priorités qu'on développe, il y a une grosse partie sur la population et sur l'éducation. Alors la population, on fait un scénario qui, économiquement, tient la route. On est bien consciente que politiquement, il est assez difficile à porter, qui est de se dire, si on veut éviter d'avoir une structure de population où on se retrouve avec un tiers des personnes qui ont plus de 65 ans à horizon 2025-2030, ce qui est donné par les projections de l'INSEE aujourd'hui, il faut qu'on devienne un pays attractif pour l'immigration. C'est-à-dire que ce n'est pas une immigration ni choisie ni subie, mais c'est ce qu'on a qualifié d'immigration attractive. C'est-à-dire que faire le pari qu'on est capable de donner des conditions à un certain nombre de cerveaux, de commerciaux, ça ne veut pas dire que les commerciaux n'ont pas de cerveau, je retire ce que je viens de dire, mais de techniciens, de scientifiques, de venir créer de la richesse en France. Et ça, on sait que c'est le pari un petit peu le plus osé, mais qui, économiquement, peut fonctionner et peut faire en sorte qu'on soit recapable, de nouveau capable de créer cette richesse. Une fois qu'on a, alors je pourrais redétailler hein, si vous voulez, les volets éducation, population, peut-être que ça sera l'objet de questions. Une fois qu'on a mis en place ce business plan sur 3 ans, comment le finance-t-on ? C'est la question aujourd'hui de faire en sorte de savoir comment on peut financer un plan à 90 milliards d'euros sur 3 ans. Alors, on repropose de revisiter alors ce qui à l'époque n'était pas encore dans le débat, mais qui est devenu aujourd'hui, un certain nombre de niches fiscales différentes niches fiscales qu'on cible. Je vais juste donner un chiffre qui nous a frappé, c'est que donc la moitié des Français payent de l'impôt sur le revenu. Et en moyenne, ils payent 2000 euros d'impôt sur le revenu par an, pour ceux qui en payent. Bon. Donc effectivement, on se dit, aujourd'hui, il peut y avoir des plafonnements de niches fiscales jusqu'à 18 000 ou voire moins d'euros. Est-ce qu'une réduction de ces plafonnements permet de dégager un certain nombre de ressources fiscales ? Donc c'est le calcul qu'on a fait. On n'est pas allé jusqu'à 2 000 euros, loin de là. Mais on a essayé de cibler un certain nombre de niches fiscales. Donc une fois qu'on a fait ça, au lieu de financer 30 milliards d'euros par an, on réduit les niches fiscales de 18 milliards d'euros, on en met 10 sur le plan d'investissement et 8 pour combler le déficit. Parce qu'effectivement, dans la conjoncture actuelle, il faut avancer avec les deux pieds, et ce qui peut être un petit peu compliqué. Il faut à la fois tenter de réduire les déficits, mais pas se faire de la rigueur pure et simple, parce qu'on sait qu'on va se tuer. C'est-à-dire que si on tue toutes nos capacités d'investissement, demain, on plonge encore plus. Donc 30 milliards à financer par an, 10 qui viennent d'un certain nombre de réductions de niches fiscales et 20 qui viennent de levées sur le marché. Alors, je vais juste donner un ordre de grandeur. En 2009, la France est allée emprunter sur les marchés financiers 165 milliards d'euros. Et en 2011, elle passe à 190. Donc, ça fait à peu près 25 milliards d'euros de plus, sans avoir fait d'investissement nouveau. Bon. Juste pour combler, parce que comme on a un morceau de dette sous le pied et que on paye des intérêts dessus, on est toujours en train de courir derrière. Donc, elle est arrivée à le faire. La France est arrivée à lever cet argent sans pour autant qu'il y ait un projet derrière. Nous, on fait le pari de dire qu'on peut mettre 20 milliards de plus sur la facture à aller lever, à condition qu'il y ait une vision très claire de ce qu'on veut faire, un projet déterminé, comme on fait dans une entreprise. Quand on va voir son banquier pour demander des lignes de crédit, il suit les états financiers, il suit l'avancement et il demande un certain nombre de renseignements sur le projet. Donc ça... En termes de faisabilité, c'est possible. Je vous l'accorde qu'il faut qu'il y ait derrière la confiance des gens qui prêtent au bout du compte. Et ça, c'est quelque chose de crucial. C'est comme un patron d'entreprise, un patron de PME. Il faut qu'il aille convaincre les gens qui prêtent. Ben là, c'est pareil, sauf qu'il faut... La question qui se pose, c'est pas l'argent qui ne sert qu'à financer du déficit ou de la dette et on est dans un cercle vicieux qui nous mène nulle part. C'est véritablement se positionner sur un projet en y associant évidemment tous les partenaires et autour de cet argent... cet argent public. Je vais finir par un dernier point. Parce que je sais que cette question de finances publiques, on en entend beaucoup parler et qu'elle est au cœur de notre capacité à nous reprojeter dans les années futures. On a fait 3 scénarios. On est parti de la situation des finances publiques d'aujourd'hui. On s'est dit, on ne fait rien. On ne fait rien. Donc, on a simulé le déficit, les taux d'intérêt payés, le montant de la dette. Si on ne fait rien, en gardant... Alors, on a dû mettre une croissance à 1,5, ce qui est déjà un peu plus optimiste que ce qu'on peut avoir certaines années. On a gardé des taux très bas, mais les taux vont augmenter, puisque la France, aujourd'hui, emprunte à des taux historiquement bas, même si, par rapport à son voisin allemand, elle est désavantagée. Les taux risquent de remonter. Donc, on les a fait remonter vers 2020. Et là, on aboutit à une situation où la dette s'envole et on est à 126% ou 125% du PIB à horizon 2025. On s'est dit, deuxième solution, on fait de la rigueur. Donc, on coupe dans les dépenses 20 milliards d'euros par an et on regarde ce que ça donne. Alors, effectivement, au début, ça réduit le déficit puisqu'on dépense moins. Donc, nécessairement, ça réduit le déficit. Seulement, quand les taux augmentent, comme on a quand même toujours sous le pied un gros stock de dette, si vous faites un gros stock de dette que vous appliquez un taux dessus et que ce taux augmente, vous avez vos dépenses qui augmentent mécaniquement parce qu'on n'arrive pas à enrayer cette dynamique qui est totalement folle de dette. C'est-à-dire que si les taux augmentent, on applique un taux plus élevé sur un stock de dette qui est déjà élevé. Et ça, à terme, on ne sera pas capable de le porter. Troisième point, voilà l'effet du business plan, c'est de se dire il faut réduire le déficit et investir en même temps. Ce qui, je vous l'accorde, est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Mais c'est notre seule solution. Si on ne fait pas de croissance, si on reste collé à des taux à 1, voire en dessous comme on l'a été, on ne pourra pas porter nos équilibres, les équilibres financiers tels qu'on les a aujourd'hui. Il nous faudrait, dans la France CCG 2040, on arrive à du 2,5-3%. Ce n'est pas les 5 ou 6% des vraies 30 glorieuses de la reprise post-Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà 2,5-3%. Et ça passe. C'est-à-dire qu'on arrive à juguler, en tout cas à porter les équilibres financiers de notre pays. Et puis, j'ai envie de conclure là-dessus en disant que c'est quand même une aventure, et ça, c'est à titre personnel, c'est ce que j'aimerais goûter, de se dire, c'est quoi faire partie, grosso modo, que signifie faire partie d'une aventure collective qui fait que un pays, ou en tout cas dans sa grande majorité, adhère à l'idée de progrès, a envie d'y participer, a envie d'en être un acteur pour pouvoir avancer et est convaincu que c'est la solution pour y arriver. Ça, c'est moi qui suis née au moment du choc pétrolier, du premier choc pétrolier en 73, donc à la fin de ces 30 glorieuses. C'est pour moi une sorte de mythe, ces 30 glorieuses, dont je pense qu'il est possible, peut-être pas de le reconstruire en entier, mais en tout cas d'avoir un certain nombre d'avancées qui peuvent être mobilisateurs pour notre pays entier. Voilà. Je vous remercie.